Bonjour, bienvenue dans la bande originale. Une fois encore, et oui, on l'a fait sans Nagui. Nagui est parti en vacances et il a bien raison. Ouais. Autour de la table, Alison Wheeler.
Ouais. Alison.
Albert Algou également. Bonjour. Présent. Albert, le plus grand skizor en deuxième heure. En deuxième heure, nous retrouvons Tanguy Pastureau. Et pour la troisième fois, je suis à côté de Leïla Kadour-Boudhabi.
Salut Daniel Morin, salut, salut à tous. Et notre invité aujourd'hui dans la bande originale, c'est Nils Arestrup. Bonjour Nils Arestrup et merci d'être avec nous sur France Inter. Vous venez nous présenter Au revoir là-haut, le nouveau film d'Albert Dupontel. Oui. Et on a adoré ce film, tous autant qu'on est autour de la table. Donc vraiment, vous êtes vraiment en famille là.
Vous êtes trouvé comment?
Non, j'ai été très surpris par le film en fait. Parce que quand on est dans la cuisine, on ne sait pas exactement sur quel plat on travaille. Quoi. C'est très curieux. Et à un moment, on découvre des tas de choses dans lesquelles, bien entendu, on avait lu, on savait vaguement de quoi il était question. Mais le style, l'énergie, la force d'Albert, le courage de cet homme face à une telle œuvre, moi, ça me laisse pantois. Et surtout, ça m'a beaucoup ému, quoi. J'ai beaucoup d'émotions. Cette histoire est incroyable.
Alors, pour nos auditeurs, on va juste replacer un peu le cadre de Au revoir là-haut. C'est l'histoire de deux rescapés des tranchées, deux poilus, qui, dans une certaine mesure, décident de se faire une place dans la société française après cette grande guerre.
Après la guerre, oui.
Tout commence en novembre 18, le 2 novembre exactement. C'est bientôt l'armistice. Et là, sur le champ de bataille, on a deux personnages, un dessinateur de génie, Édouard Péricourt, et un comptable, Albert Maillard, respectivement incarné par Albert Dupontel et par Nahuel Pérez Biscaillard. Le lieutenant qui est sur place, c'est Laurent Lafitte, qui va simuler une offensive allemande et qui va en fait tuer quelqu'un. Et Albert va être témoin de ce meurtre et il va réussir à sauver de là, hélas, au prix de la défiguration d'Édouard Péricourt, qui est votre fils, en fait, dans l'histoire.
Mmh.
Voilà. Et c'est l'histoire de ces deux hommes qui, après la guerre, reviennent dans la société civile et qui décident de monter une petite escroquerie. Est-ce que j'ai bien résumé ?
Oui, absolument. Les après-guerres sont toujours des choses très, très particulières parce que on l'a connu en 14, on l'a connu après, on le connaîtra sans doute toujours. Il y a des gens qui servent de chair à canon dans certaines idées, dans certains contextes, et qui reviennent. Et il y a souvent de la part de la population en général, enfin souvent, j'ai eu l'impression qu'il y a une espèce de rejet, en se disant non, ça suffit maintenant, on a souffert pendant 4-5 ans, tous ces mecs avec la gueule cassée, qui sont déchirés, tout ça. On n'a pas envie de les voir, on n'a pas envie de les entendre. Et je crois que certains militaires, comme ça, à la fin de la guerre, se sentent très rejetés par la société. En plus, lui, bien entendu, celui qui joue mon fils, est totalement défiguré. Et donc, sans espoir, sans avenir, sans passé, sans visage. Que faire ?
Alors on va en parler tout à l'heure de ces gueules cassées avec Dominique Fouchard, notre spécialiste qui est historienne et qui va nous parler de ce poids de la guerre en fait, de cette après-guerre. Et donc vous, dans le film, vous incarnez le père de cette gueule cassée. Vous êtes avant la guerre déjà un peu en conflit avec votre fils. Vous êtes dans...
Oui, je suis dans le conflit de l'indifférence. Il y a certains pères comme ça, mais peut-être d'ailleurs certaines mères, je ne sais pas, qui constatent qu'il y a des enfants.
Oui.
Qui constatent qu'ils ont des enfants.
Sans plus.
Mais qui ne s'en préoccupent pas des masses, non. Parce qu'il y a les affaires, parce qu'il y a le business, parce qu'il y a ma propre vie, parce qu'il y a tout ça. Et donc il y a une certaine négligence, en tout cas, dans son rapport avec son fils, qui part donc à la guerre et qui, on annonce, enfin on ne va pas déflorer tout le
Mais
film,
que,
qu'il est mort. Donc son père l'enregistre comme mort. Et c'est au moment où on enregistre la mort de cet enfant qu'en fait, il naît véritablement dans votre cerveau. C'est-à-dire que c'est plus simplement une idée, c'est quelque chose d'autre. Et renaît à ce moment-là aussi une forme de culpabilité.
Vous incarnez voilà, ce père indifférent,
oui.
Issu de la... appartenant en tout cas à la grande bourgeoisie.
Grande bourgeoisie,
voilà,
oui.
Voilà, l'argent n'est pas un problème, mais...
n'avait pas fait la guerre.
Qui n'avait pas fait la guerre.
Qui n'a pas combattu, du moins.
Absolument.
Et qui traite un peu son fils comme il traite les affaires, puisqu'à un moment, pour avoir la paix... Il lui donne de l'argent.
Oui. Ça arrive, ça.
Et alors, incarner ce rôle-là, comment Dupontel vient vous voir? Il vous propose le rôle, vous connaissiez, vous en aviez parlé avant?
Non, pas du tout. J'avais jamais rencontré Albert, on ne s'était jamais vu. Moi, j'étais, je le dis vraiment, très sincèrement, fan de ce créateur, de cet homme, de son travail, de sa recherche.
Oui, vous dites qu'il ne fait pas des films? Vous dites qu'il est dans il est dans une recherche.
Oui, il cherche toujours, il cherche tout le temps, il creuse. Il creuse dans sa tête, il creuse dans son cœur aussi. C'est un véritable créateur, c'est un type très original dans le cinéma français. Il n'y a pas tellement de comparaisons. Donc j'étais très fan. Voilà, nous nous sommes rencontrés, on a bu un café, il m'a dit, voilà, je lui ai dit, mais vous voulez que je lise le livre? Non, surtout pas, ne lisez pas le livre.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'Au revoir là-haut, c'est
un bouquin d'abord
de Pierre Lemaitre, bien sûr, qui a eu le Goncourt.
Très grand succès, ouais. Des librairies. Et donc j'ai pas lu le bouquin, et on a répété avec Albert, comme ça, pendant une petite quinzaine de jours.
Et vous êtes plus?
Ça s'est bien passé.
Non, mais c'est ça, c'est aussi un rapport. Je dis, vous êtes plus à Essien.
Oui. On sait plus. Il y a eu forcément une confiance, je crois, un peu dans les deux sens. Et en même temps, c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'Albert est quelqu'un de très précis, de très exigeant. Et il a une idée véritablement de ce qu'il veut de son film. De chaque scène, de chaque personnage. Et parfois, moi, je me sentais un peu trop encadré. Ouais. Et je disais, mais il faut quand même que j'arrive à trouver un espace, moi, là-dedans, pour essayer de servir ce que tu veux, tout en essayant d'apporter mon petit truc personnel. Et c'était pas facile. Voilà.
Maréchal, vous avez remarqué que Nils était notre invité aujourd'hui, mais est-ce que vous savez pourquoi il est venu nous voir?
Vous enchaînez vite, vous. Hein. Bon, écoutez, mon cher Morin, et vous aussi, chère Madame Cadour.
Bonjour.
Nous nous connaissons depuis longtemps, depuis que je suis en CDI à France Inter.
Ah oui, c'est vrai. Ah, oui.
Et je croyais avoir pour... tu te tais.
Pardon ?
Alison. Et je croyais avoir pour vous... Non, tu peux parler. Je croyais avoir pour vous, non pas de l'affection, je laisse ça aux lopettes, mais de l'estime. En fait, Nagui est en partie navigué sur son yacht de 15 mètres, de large. À peine êtes-vous assis à sa place que vous vous comportez avec la même outrecuidance, confirmant ainsi le vieil adage qui dit que c'est à la livrée des larbins qu'on reconnaît le maître.
On a adoré le film, enfin.
Oui, non mais je parle de Nagui, je ne parle pas de M. Astrup, évidemment.
Il a fait un film sur Nagui?
Oui, ça viendra. Oui. À l'instar de Nagui, vous n'avez de cesse de nier, de dénigrer, de piétiner, d'abîmer, de souiller, de saloper. Allez-y. Nos valeurs patriotiques désormais considérées comme aussi ringardes que révolues. Je préfère donc me taire et passer la parole à un vieil ami... Jean-Philippe Pétain, le neveu du maréchal, qui fut notre patriarche providentiel et le sauveur de la patrie. Français, j'ai pris la décision, au cœur d'un soldat, d'aller au casino de Vichy voir le film Au revoir là-haut. Avec une stupeur attristée, j'ai vu deux poilus rescapés de l'horreur des tranchées qui décident de monter une escroquerie au monument aux morts. Un sacrilège qui profane ces statues dont les érections aussi magnifique que celle dont j'honorais jadis mon épouse Germaine, toujours ardente lors des assauts. Ces statues, disais-je, dont les érections commémoraient les sacrifices héroïques de nos soldats morts pour la patrie. Monsieur Arestrup, naguère, vous m'aviez bouleversé en incarnant de façon saisissante le général von Scholtitz, qui était un ami, et dont je déplore néanmoins qu'il n'ait pas appliqué à la lettre les ordres du Führer, qui était un ami. Apprenant que vous participiez au film d'Albert Dupontel, qui était un ami, où vous incarnez un père accablé par les turpitudes de votre descendance, je me suis dit que vous pourriez en limiter les conséquences funestes en cassant encore plus la gueule de votre fils, puisque celui-ci était déjà une gueule cassée. Mais comme le dit Nagui dans son affreux sabir rastaquero branchouillo américain, je ne veux pas spoiler. Il dit ça tout le temps, spoiler. Donc, chers auditeurs de la radio française, je vous dis au revoir là-haut, c'est-à-dire adieu.
Merci Maréchal, bravo.
Oui, on ne veut pas spoiler, on ne veut pas divulgâcher la fin du film d'Albert
Dupontel. Divulgâcher.
Divulgâcher, ouais, c'est l'équivalent, vendre la mèche. Est-ce que quand on est comédien, on est dans la même tension que le réalisateur lors de la sortie d'un film?
Non, je ne pense pas. Enfin, ça dépend peut-être des cas, des individus, de l'âge, de beaucoup de choses. Mais je pense qu'un acteur, enfin, dans la position du personnage que j'incarne dans le film, n'est pas spécialement angoissé. Je crois que, voilà, je pense qu'Albert, lui, qui a investi tant de sa vie, tant d'heures, tant de travail, va forcément connaître une forme d'angoisse, mais elle est plus relative pour les comédiens.
Et revenons au travail que vous avez mené avec Albert Dupontel, je crois qu'il fait beaucoup répéter, il vous fait beaucoup répéter en amont, bien avant le tournage. Vous, ça a été aussi le cas, Laurent Lafitte disait, voilà, on répétait tout un nombre incalculable de fois, quasiment à l'épuisement.
On ne répétait pas pour chercher, on répétait pour trouver, pour faire ce qu'il demande. Puis on n'a pas tout répété non plus, on répétait certaines scènes. Il voulait savoir si on comprenait la musique, si on comprenait sa musique. Et donc c'était des répétitions extrêmement détaillées.
Et est-ce qu'un film en costume, parce que là, pour le coup, on est complètement dans cette ambiance d'après-guerre, est-ce que ça aide à porter un rôle ? Est-ce que ça vous a aidé à porter votre personnage, qui est un personnage assez taciturne ?
Oui, le costume est un élément extrêmement important pour tous les personnages.
Même quand c'est un personnage contemporain,
costume, ouais. Même quand c'est un personnage contemporain. Il n'y a rien de plus important dans l'approche qu'on peut avoir d'une personnalité que la façon dont il est habillé. Donc, soit ce costume veut envoyer un message à tout le monde... Soit, au contraire, ce message est relativement négligé et on s'en fout. Là, en l'occurrence, pour Péricourt, le costume fait le banquier d'une certaine manière. Ouais. Et donc, il y a quelque chose de très recherché, de très élégant, de très raffiné dans sa façon de s'habiller. Oui.
Mais au-delà
c'est toujours important.
Au-delà du taciturne, Nils, par exemple, dans le film, avec Albert Dupontel, il y a une scène où vous êtes tous les deux, et rien qu'en disant « on passe à table », on a peur. C'est une force chez vous, sans dire presque un mot, juste sur une petite phrase anodine, vous faites peur.
Il a raison.
Comment est-ce que ça sort comme ça? Parce que c'est quand même hyper impressionnant. Dans Un prophète, quand j'étais au cinéma, quand je vous voyais, même quand vous ne disiez rien, je suis sorti trois fois de la salle.
C'est
pour
vrai.
Cause de trouille. Arrêtez de me regarder comme ça. Vous recommencez. C'est quoi votre secret? Comment vous faites?
Non, mais c'est pas. Il n'y a pas de secret. Ce sont les personnages. C'est notre travail.
Vous avez une autorité naturelle. Vous avez une sorte d'autorité naturelle, même quand on vous voit là autour de la table, vous en imposez. Il y a quelque chose de.
Gardez le public. Il est pétrifié.
Il tremble.
Pétrifié. Ils ont la trouille.
Oui, mais je sais pas quoi vous dire. Moi, je ne me vis pas à l'intérieur de ma carcasse comme ça. Je me suis au contraire quelqu'un de très timide, de très introverti. De plutôt facilement paniquer et je n'use pas d'une autorité particulière dans mes relations avec les autres. Je ne crois même pas en avoir. Donc c'est vraiment le résultat d'un travail, travail d'acteur qui peut-être a observé un certain nombre d'hommes ou de femmes qui avaient ces espèces d'autorités naturelles et sur quoi ils s'appuyaient. Ça fait partie de la recherche d'un acteur sur les gens.
Vous avez qui comme exemple en tête ?
D'autorité comme absolue.
Naturelle.
Fernandel, Bourville, Dubosc,
par exemple. oui, non. Bah, je ne sais pas. C'est, j'ai beaucoup observé les acteurs américains des années 50, 60. Évidemment, Marlon Brando, évidemment.
C'est un acteur important pour vous, Marlon Brando.
Oui, en fait, c'est parce que je considère que le jeu est quand même. Un peu entre guillemets un art dramatique, mais un art. Et que je crois que cet homme a apporté beaucoup de choses, a modernisé beaucoup le jeu. Mais c'était aussi en France des gens comme Lino Ventura, comme Jean Gabin. Et puis les animaux. J'aime beaucoup observer les animaux. J'allais beaucoup au zoo. Tous les dimanches, j'allais au zoo avec mon père. C'était la grande sortie.
Ça vous inspire pour le jeu ?
Ouais, pour la présence, oui. Il n'y a pas de comparaison possible avec un lion, même dans une cage, qui a l'air de dormir. Là, la présence, elle est effective. Bien sûr, c'est nous qui projetons aussi beaucoup. On connaît son histoire, on sait la violence qui peut sortir de lui. Cet animal m'a fasciné et m'a appris beaucoup de choses. Mais je ne me prends pas pour un lion. J'ai simplement essayé en tant qu'acteur, comme un peintre finalement, d'être influencé par des choses, des événements que j'ai pu croiser.
C'est un rôle sur mesure. Moi, je vous ai vu, c'était une évidence.
Oui, je ne sais pas.
C'est aussi pour ça que Dupontel est sûrement venu vers vous, pour le rôle.
Je ne sais pas, mais en même temps, les évidences, c'est un peu ce qui m'embête le plus. C'est que plus on me proposerait des choses qui sont éloignées de cette image ou de cette convention, plus je serais excité, tenté.
Vous rêvez d'un rôle à contre-emploi, en fait.
Ouais.
Comme lequel?
Je ne sais pas définir un rôle qui serait à contre-emploi, mais par exemple, j'aimerais bien faire une comédie.
Ouais.
J'aimerais bien être drôle.
Je suis sûre que vous êtes très drôle.
Ça commence déjà.
Ça rit déjà.
Non, mais vous en aviez parlé la dernière fois.
J'aimerais bien, mais personne ne me proposera ça.
C'est dommage, parce que ce serait une garantie de succès. Enfin, si on disait la prochaine comédie, Camping 4 avec Neil Sarastreux. Moi, j'y vais.
Ouais, mais franchement, je serais pas con.
Et c'est encore plus drôle quand c'est des acteurs inattendus dans des rôles comiques. C'est pour ça que ça serait génial, effectivement, de vous voir dans un rôle.
Votre Tchéopanta à l'envers.
Un bon
film. Ouais.
Et le théâtre vous a pas apporté ça, parce que
si au théâtre il y a beaucoup plus de variations possibles avec les personnages. J'ai beaucoup joué de Tchekhov, par exemple, et il y a des choses extrêmement différentes et qui permettent. Mais aussi au cinéma, dans Quai d'Orsay, par exemple, de Tavernier, où j'avais l'impression que je pouvais jouer sur une forme de fragilité qui est mienne et que je pouvais plus facilement exposer, quoi.
Mais je trouve que dans Au revoir là-haut, quand je dis que c'était une évidence, quand je vous vois, moi, je vous trouve parfait dans le rôle, et en même temps, c'est pas un personnage caricatural, Péricourt, cet homme que vous incarnez. Il est, c'est ce que dit Dupontel en parlant de vous, que vous êtes une sorte de monstre de sensibilité, que lui a vu ça chez vous. Donc il ne vous cantonne pas simplement à une forme de rôle d'austérité, d'autorité, parce que votre personnage est un personnage extrêmement sensible au fond, sans dévoiler l'issue de l'histoire.
Oui, c'est un personnage qui ouvre une faille à la toute fin du film, devant son fils, devant le...
Oui, il se donne à voir.
Donc oui, il fallait qu'il y ait derrière ce masque quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre... C'était d'ailleurs ce qu'on avait dit avec Albert, il faut que le masque soit très très raide pour que quand tu le retires, ça fasse quelque chose de très particulier.
C'est intéressant parce que son fils porte un masque lui aussi, mais pas le même.
Oui, absolument. Mais c'est vrai, c'est deux masqués.
Il y a un échange ou un croisement de masques.
La mascarade.
Dans le tragique.
Neil Sarastrup est avec nous jusqu'à 12h30 dans la bande originale. Évidemment, les amis, vous êtes sur France Inter. IBI, I want to be like you. On retrouvera évidemment tous les comparses, c'est-à-dire Alison Wheeler qui commence déjà à danser. Et là, ça va toujours ?
Mais moi, ça va bien toujours. Ravi.
Mon père, maréchal.
Je suis là.
À tout de suite.
À toutes. Look at you now. So wild and free. Watching you move, why can't that be me? I'm up and down, up and down. I often cry, often cry. The only thing I know, I wanna be like you.
Yeah.
Alison Wooder. IBI, I want to be like you dans la bande originale qui reçoit aujourd'hui Nils Arestrup pour Au revoir là-haut, le dernier film d'Albert Dupontel qui ressort aujourd'hui. Albert, je vois que vous avez la BD.
Et oui, j'ai ces deux circonstances. Ça pourrait être opportuniste, mais ça ne l'est pas parce que c'est une excellente adaptation de Au revoir là-haut en bande dessinée. Le scénariste, bah, c'est tout simplement Pierre Lemaître, hein, c'est-à-dire l'auteur du roman. Et le dessinateur, c'est Christian Demeter. Alors, Christian Demeter, c'est vraiment un de nos grands dessinateurs aujourd'hui, auteur de BD. Et c'est vraiment une grande réussite. Alors, c'est très différent du film, donc je vais pouvoir vous l'offrir parce que c'est un autre regard sur la même histoire, mais avec un traitement différent. Et l'émotion est là, une grande tension dramatique, et c'est aussi un coloriste tout à fait remarquable, Christian Demeter. Donc c'est aux éditions Rue de Sèvres, Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, Christian Demeter, l'adaptation en bande dessinée.
Voilà.
Et il y a des adaptations formidables, parce qu'il y a aussi l'inverse. Tout à l'heure, on évoquait Quai d'Orsay, qui au départ est une bande dessinée, qui est devenue un excellent film, comme quoi parfois le pont, les passerelles entre les deux peuvent se faire de très belles façons.
Merci Albert. C'est
elle aussi, elle colorise nos vies de façon exceptionnelle. C'est l'heure de retrouver l'humeur d'Alison Wheeler.
Oui,
Alison, si je peux me permettre, notre meilleure recrue depuis des années. Elle est formidable, fantastique.
Merci.
Un talent incroyable.
Merci Daniel.
Toujours en servir de textes ciselés. Il n'y en a jamais en trop. C'est de l'épure totale avec 100% de réussite.
Et elle n'est pas belge.
Merci beaucoup Daniel. Merci de m'avoir si bien introduite, ça fait du bien. Parce que ces derniers jours, je vous dis la vérité, je me sentais pas bien. J'avais des frissons, des courbatures, des bouffées de chaleur. J'allais beaucoup aux toilettes. Vous l'aurez compris, je suis tombée amoureuse. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Oh là, j'avais oublié tous ces symptômes bizarres.
D'où ça sort ce bonjour?
Je sais pas. Quand je suis amoureuse, j'ai un comportement étrange. Je suis tout le temps gay. Je mets du parfum à l'intérieur de mes coudes. Dans les squares, je prends des enfants que je connais pas dans les bras. Ouais, je respecte plus rien. Je me sens comme Grégoire qui chante du Oasis sur un piano. Je suis tellement légère, j'éclate de rire à des moments imprévisibles. Je ris aux blagues de Daniel Morin, n'importe quoi.
Ah oui, c'est fou ça.
Mais je vais pas refaire les erreurs du passé. Je veux pas aller trop vite. J'hésite à lui faire un cadeau pour notre anniversaire. Ça fera un quart de mois la semaine prochaine. C'est nos noces de latex. Oh, et puis je fais ce que je veux. Hein. C'est pas bon de se poser trop de questions du genre à quoi il pense en ce moment? Est-ce qu'il m'aime pour moi ou juste pour se rapprocher de ma sœur? C'est qui la salope sur son fond d'écran? Il a pleuré devant la liste de Schindler? Je me pose trop de questions, putain. Ah, oh, je suis heureuse. Et c'est magnifique, la vie à deux. J'essaie au maximum, moi, de faire en sorte que chaque jour passé ensemble soit une fête. Quand on se réveille le matin, je bouffe une noisette de flou au caril et je chante à l'oreille tout doucement. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Moi je t'offrirai. Bah oui, l'amour ça rend très de dingue. Là j'ai commencé un herbier avec ses caleçons. Par exemple là j'ai un Célio Slim Fit taille L bleu nuit. Et la légende c'est joli missionnaire tranquille sur machine à laver. Je trouve ça beau, c'est poétique non? Je m'estime très heureuse parce que les gens se font tellement de mal par amour. Regardez Élie et Dieudonné, Stoney Chardin, Jean-Jacques Bourdin et le journalisme, Jérôme Kerviel et l'argent qu'elle gâchit. Alors qu'au départ c'était que de l'amour. Je suis pas une femme possessive. Non, je veux passer un maximum de temps avec lui, c'est tout. Hein? Du coup, je l'ai installé dans ma cave. D'ailleurs, je laisse la radio sur France Inter branchée pour lui tenir compagnie. Il m'entend là. Compagnie. Il m'entend là en ce moment. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Il adore Brel. Il adore. À chaque fois que je chante, il pleure. Hier soir encore, il me disait, Alison, mon amour, si tu me détaches, je te promets de disparaître et de rien dire à la police. Il est pas trop mignon. Lui, au moins, il m'aime comme je suis, avec mes forces, mes faiblesses et mon injonction d'éloignement. Et moi, j'aime comme il est, avec ses forces, ses faiblesses et ses goûts douteux pour le karaoké. Ne t'inquiète pas. Maman rentre ce soir à la maison. Je t'aime, mon Agui.
La bande originale. Est-ce que cette déclaration va lui donner envie de revenir?
Ah, je sais pas.
On verra ça d'ici une dizaine de jours. Nils, on va revenir sur une partie de votre carrière en musique, si vous le voulez bien. On commence en 1968.
Sur la piste des savanes, je suis le caravanier.
La cavalerie de Julien Clerc.
Un grand voyage organisé.
La caravanerie. Le caravanier.
Je dis n'importe quoi. Ouais, le caravanier, d'accord.
Le caravanier, rien à voir avec la cavalerie.
Ça, c'est votre choix musical, Nils Arestrup. Mais... pour cette année 68, ça vous évoque quoi?
Souvenir. Souvenir de ce temps-là, de cette époque-là. Et c'est l'année où j'ai joué la première pièce que j'ai jouée de ma vie, qui s'appelle « La vie est un songe », une pièce de Calderon.
Oui.
Et j'avais comme collègue Alain Souchon, qui à ce moment-là
Souchon voulait
était
comédien.
un petit peu chanteur, un petit peu comédien. Et on était tous les deux inconnus, on avait 20 ans, ou un petit peu plus. Et à chaque fois qu'on descendait vers le théâtre, on chantait tous les deux ça. On chantait Julien Clerc, parce que c'était l'air qu'on entendait à l'époque. Et donc ce souvenir partagé et cette amitié naissante avec Alain Souchon m'a poussé à penser que cette époque-là, 68, c'était aussi ça.
Oui, c'est ça, c'est mai 68, vous découvrez le théâtre. Je crois que l'histoire, c'est que vous devez travailler à l'usine pour mai 68, et puis l'usine de votre père, je crois. Puis vous décidez de changer un petit peu de chemin.
Oui, c'est pas moi qui ai décidé, c'est 68 qui a décidé. C'est-à-dire qu'il y a eu la grève, il y a eu la grève des usines, il y avait la grève de l'usine de mon père, et je devais en effet, dans les mois qui suivaient, travailler dans cet atelier de bascule et de balance où travaillait mon père. Et 68 a été comme une espèce de parenthèse qui a arrêté un peu le temps et qui a permis à certaines personnes de penser ou de réfléchir avant de se lancer dans ce qui était normal, dans ce qui était prévu, puisque mon père était ouvrier, que je devais être ouvrier. Et donc c'est cette parenthèse-là qui m'a permis en effet de penser que peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire ou à visiter, et que j'ai croisé le regard d'une femme qui m'a donné envie d'aller ailleurs.
Et c'est Tania Balachova.
Ouais.
Tania Balachova, vous la voyez à la télé, je crois.
Noir et blanc, en plus. Mais je voyais quand même qu'elle avait des yeux, je sais pas, des yeux particuliers. Elle avait une toque, c'était une héritière de la Russie blanche qui s'était installée à Paris. C'était un très grand professeur. Et puis, je l'entendais parler à la télé, je sais pas, différemment. J'avais jamais entendu ça. J'avais jamais entendu ce type de paroles sur un art que je ne connaissais pas du tout. J'étais très éloigné de tout ça, sur le théâtre, sur qu'est-ce que c'est que le théâtre, qu'est-ce que ça peut apporter. Il y avait des élèves, il y avait un cours, tout ça. Et j'étais très séduit par cette femme, par sa douceur. Et donc j'ai été à l'endroit où elle donnait des cours, rue de la Gaîté, et par appétit de la rencontrer.
C'était une idée
fixe,
il fallait la voir.
Je voulais voir si elle était vraie, d'une certaine manière, si cette douceur, cette gentillesse existait réellement. Et donc j'ai été rue de la Gaîté et je l'ai rencontrée, croisée, et je ne suis plus jamais parti de là.
Ouais, vous avez suivi ses cours, et au début, ça n'a pas été forcément simple, parce que vous n'étiez pas le genre de jeune homme à aller sur scène pour jouer, vous observiez beaucoup.
Oui, bah, j'y connaissais rien, je n'avais rien lu, je ne savais pas, je voyais des gens qui parlaient très fort, qui allaient au bistrot, qui buvaient des verres de vin rouge, qui avaient des livres dans les poches. Et c'était très, très impressionnant pour un timide, quoi, pour un mec qui ne connaissait pas grand-chose. Et donc, je me suis tu au fond de la salle pendant plus d'un mois, puisque j'avais réussi à payer l'autorisation de la voir pendant un mois. Et au bout d'un mois, elle est en effet venue me voir personnellement. Elle m'a dit, mais vous pensez que vous pouvez continuer à regarder les autres comme ça, sans rien tenter, sans rien risquer? Eh bien, si vous ne tentez rien, si vous ne risquez rien, vous allez quitter cet endroit la semaine prochaine. Et donc, je me suis retrouvé coincé. Il y avait un mec à côté de moi. Je lui ai dit, mais tu vois, je ne sais pas qu'on pourrait travailler, qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et il travaillait sur Caligula de Camus. Et donc, voilà, j'ai été chez lui, j'ai appris le texte par cœur. Et puis, le samedi suivant, je montais pour la première fois sur un plateau au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, dans la scène de Caligula avec le jeune Scipion.
Et le regard du maître posé sur vous, ça, c'était quoi?
C'est toujours embêtant à raconter, parce que c'était la première fois de ma vie que je disais quelque chose d'autre que moi. J'essayais d'être autre chose que moi, et je me suis senti d'un seul coup libéré, quoi, très 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 bien de pas être moi. C'était un truc chouette, vraiment chouette. Et voilà, j'ai passé la scène. Elle a pris un long temps. Il y a eu un long silence. Il y a eu un fauteuil qui claque comme ça dans le noir. Elle s'est levée. Elle est venue au bord du plateau. Elle a d'abord parlé à celui qui me donnait la réplique. Et puis après, elle m'a dit des choses extrêmement gentilles. Voilà. C'était la première caresse que je recevais.
Et quelle caresse ?
Donc ça m'a encouragé, ça m'a rassuré un peu et ça m'a autorisé à rêver.
Voilà. De voir Nils Arstrup assis quelque part, qui vous regarde sans rien dire et lui dire de se bouger, jamais j'aurais osé. Bon, quel courage, Brenda.
Vous voyez.
En 1979, Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Alors là, c'est une époque où vous tournez dans une série, Le Tourbillon des Jours, qui est un carton phénoménal. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de chaînes, mais vous faites 70% de part d'audience.
Oui, il y a deux ou trois chaînes, je crois, je sais pas.
Deux, je crois, à l'époque. Et vous êtes obligé, vous dites, de vous déguiser pour aller faire les courses.
Oui, enfin, oui, parce que les gens regardaient ça. Le Tourbillon des Jours était une espèce de série en quatre épisodes qui avait mis en scène Jacques-Daniel Valcroze. Et évidemment, tout ce qui passait à la télé était événement considérable à ce moment-là. Et donc, l'anonymat dans lequel je pouvais être quand je descendais acheter du pain ou des croissants a été totalement bouleversé.
Et vous gérez comment alors ce succès d'un seul coup ?
Très peur. Ça me faisait très très peur que les gens me regardent, qui me parlent, qui me disent qu'est-ce qui se passe dans le prochain épisode. Et, j'ai toujours la même peur. C'est-à-dire que j'ai rêvé, moi, de pouvoir faire ce métier en n'étant que sur un plateau ou en tournant que un film, mais en éliminant tout ce qu'il y a autour. J'avais envie de continuer à acheter des croissants sans qu'on me regarde bizarrement, sans qu'on me parle. Et là, ça a été difficile pendant quelques semaines, le temps que tout ça s'arrête. Et c'est vrai que certains matins, je me déguisais. Enfin, je mettais un bonnet qui descendait très bas, et des lunettes noires, un cache-col et tout ça. Mais voilà, j'ai toujours eu du mal avec l'exposition.
Oui. Et puis c'est une période qui, vous le racontez, qui n'a pas été très simple non plus dans votre vie, dans les grandes nuits parisiennes. Mais que là encore, il y a le théâtre qui revient. Je trouve ça intéressant dans votre parcours. Vous jouez Platonov.
Oui.
Et Platonov vous sauve.
Oui, c'est-à-dire que dans les années 70, j'ai la première vraie grande chose qu'on m'a proposée à Paris, c'était Crime et Châtiment, où je jouais à Raskolnikov, et où j'étais vraiment pas bon, j'étais vraiment pas prêt. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, Barsac qui dirigeait le théâtre m'avait proposé le rôle parce que Samy Frey ne voulait pas le faire. Et donc, il m'avait rattrapé par les cheveux. Comme ça, j'étais un jeune élève encore à l'école. Et donc, il m'a balancé dans Raskolnikov et ça a été une tragédie, quoi. Donc, j'ai passé 10 ans après à errer, à traîner, à boire énormément. J'étais un véritable grand alcoolique. Et pendant 10 ans, j'avais compris que je ferais jamais ce métier, quoi. Jusqu'en 1979, où on m'appelle pour me dire, il y a une pièce, Platonov, Tchekhov, au théâtre d'Aubervilliers, Gabriel Garand veut te voir. C'est vraiment un miracle.
Et c'est Platonov qui vous sauve?
Oui, c'est Platonov qui me remet en selle, qui me permet, j'avais 10 ans de plus, de repartir, de recommencer, quoi, à l'intérieur de ce métier.
On reste dans le théâtre, on passe en 1990.
Con la frente marchita y las nieves del tiempo plateando mi sien.
Donc la chanson Volver, vous pouvez nous parler de ce choix musical?
C'est beau.
Bah oui, c'est très beau.
Ça, c'est pas véritablement en rapport avec ce moment-là dans ma vie. C'est autre chose. C'est que les voix de femmes, et les voix de certaines chanteuses, comme celle de Buica, et cette femme a une voix dont on entend les griffes de la vie sur sa gorge. On sait après, si on s'y intéresse, qu'elle a eu en effet pas mal de problèmes, beaucoup de difficultés. Et c'est ces griffes qui font la qualité de sa voix. C'est cette déchirure qu'il y a dans son chant qui moi me touche et m'émeuve particulièrement.
Voilà. Et vous, les déchirures que vous avez eues, ça compte dans votre jeu d'acteur aussi ?
Oui, mais inconsciemment. Je crois que toute cette errance, là, comme ça, pendant des années, c'est ces rencontres du hasard dans la nuit, ces voisins de tabouret. Je me souviens d'une rencontre avec Bachung qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. On était tous les deux vraiment bourrés et on s'est dit bonjour. Et je me souviens de ça et on ne s'est rien dit d'autre. On est resté une heure comme ça l'un à côté de l'autre à cuver nos whisky. Oui, je ne vais pas raconter tout ça, mais c'est forcément ça vous donne, ça pose des sédiments à l'intérieur de votre tête et de votre corps. Et quand vous êtes acteur, tous les sédiments comptent. Donc on peut penser qu'il y a quelque chose de là qui m'a calmé, oui, dans cet alcool aussi, qui m'a permis d'être un peu moins inhibé, en devenant très inhibé.
Et là, en 90, vous êtes patron de théâtre à l'époque.
Ouais.
Patron du théâtre de la Renaissance. Et vous dites que c'est une des périodes les plus galères de votre vie. Pourquoi ? Pourquoi vous avez dit oui ?
J'ai dit oui parce que je me suis laissé tenter. Voilà, en fait, je dirigeais une école à l'époque qui s'appelait l'école du passage, que j'ai dirigée pendant 10 ans avec des copains. Et j'avais été au ministère de la Culture pour essayer d'obtenir un peu d'aide financière. Et il y avait un directeur du département théâtre qui m'a appelé, qui m'a dit « mais ça vous dirait pas d'avoir un théâtre ?» C'était une chose auquel j'avais jamais pensé ou imaginé. Et donc, un après-midi, j'ai été au Théâtre de la Renaissance. Je suis rentré dans une église, dans un temple. Et puis, je me suis aperçu que le quotidien d'un directeur de théâtre, c'était de parler avec des banquiers, ouais, d'essayer de se sauver un petit peu d'une situation qui est éternellement précaire. Quand vous prenez le théâtre, vous rachetez les 7 millions de dettes pour un franc symbolique. Mais les dettes sont à vous. Elles sont sur vous. Et donc... J'ai quand même réussi à faire une trentaine de spectacles dans ce théâtre en faisant un 18h, un 21h et un spectacle à minuit. J'ai rencontré Philippe Cobert qui est devenu un copain aussi. Il y a eu des bons moments, mais enfin pour l'essentiel, c'était des histoires de fric, c'était la peur.
Quoi. Plus jamais ça, quoi.
Non.
Ouais, on vous sent complètement vacciné. Ouais,
là, c'est sûr que je ne reviendrai pas là-dedans. Non.
Leïla, il y a une spécialiste qui est venue nous parler du retour de la guerre ou même de la guerre.
C'est ça, Dominique Fouchère. Puisqu'on parle, je vous le rappelle, d'Au revoir là-haut, hein, du nouveau film d'Albert Dupontel avec Nils Arestrup. Je n'ai pas parlé du casting. Laurent Lafitte de la Comédie Française aussi qui incarne ce lieutenant, ce salopard, en fait, on va le dire comme ça, parce que c'est un rôle terrible. Émilie Dequesne, Mélanie Thierry.
Il est tellement bon, salopard.
Ouais, Laurent Lafitte, un salopard, il est parfait. Michel Villermoz de la Comédie Française aussi, à qui encore j'en dis, qui fait un passage remarqué. Et on va parler avec vous, Dominique Fouchard, vous êtes historienne, vous signez Le poids de la guerre, les poilus et leur famille après 1918 aux éditions Presse universitaire de Rennes. Donc on a besoin de votre éclairage justement sur la condition de ces soldats après la guerre qui reviennent dans la vie civile. On a la sensation, dans le film en tout cas, qu'ils sont complètement abandonnés à leur sort. Est-ce que c'était vraiment le cas ?
Non, ils sont pas abandonnés à leur sort. Simplement, la question du retour est une question absolument majeure. D'abord, sur les quasiment 8 millions d'hommes qui sont mobilisés, il y a 6 500 000 à peu près, hommes qui rentrent. Donc ça veut dire que c'est beaucoup. Et pour les gueules cassées, si on reste sur l'exemple des gueules cassées, il y a à peu près, on a des chiffres qui sont un petit peu étranges, parce que c'est entre 10 et 15 000 gueules cassées. Vous voyez, il y a une incertitude quand même assez forte sur les chiffres. Donc ceux-là, d'abord, les gueules cassées, ils passent un moment à l'hôpital, un long moment. Et puis ensuite se pose la question du retour à la maison ou pas. Et certains, comme Édouard dans le film, ne peuvent pas rentrer. C'est impossible pour de multiples raisons, généralement pour des raisons qui tiennent aussi à ce qu'ils avaient vécu avant.
Et pas le traumatisme de la guerre.
Alors avant, c'est-à-dire la situation qu'ils quittent.
Oui.
Et puis le traumatisme de guerre. Et là, qui est très, très, très important. Alors après, il y a des choses qui se passent. Il y a des aides de l'État, des aides financières, qui sont relativement importantes. Et puis, il y a aussi une association qui est fondée très vite, qui pour aider justement ces gueules cassées, pour les mutiler de la face, comme on dit, de la face et de la tête. Et alors, assez paradoxalement, On a un peu l'impression qu'en fait, plus il y a d'aide dans ce domaine-là, hein, j'entends, hein, plus il y a une aide de l'État, plus en fait il y a un repli. C'est-à-dire qu'il y a une énorme difficulté à assumer cette différence, cette défiguration, quoi. Mais il y a des aides, par exemple en 25, il y a une reconnaissance, hein, de la spécificité de la défiguration. Donc il y a des aides financières, il y a l'ouverture d'un château qui s'appelle le château de Moussy, hein, qui est l'Union des blessés de la face, d'ailleurs existe toujours, hein, aujourd'hui, puisque les conflits ne sont pas terminés, comme vous n'êtes pas sans le savoir. Donc il y a encore des gens qui rentrent avec le visage éclaté, quoi. Donc cette association existe toujours. Mais finalement, la mise en place de ce château, plus d'autres, mais c'est, l'exemple de ce château est vraiment typique, d'une certaine manière, c'est un refermement. Alors certains ensuite sont rentrés chez eux, ont pu aussi trouver une forme de bonheur, hein, parce que il y a pas que du malheur au retour, loin
non,
de là.
Non, mais alors il y a le cas des gueules cassées, on vient d'en parler, mais il y a aussi le cas du soldat traditionnel, du poilu traditionnel, c'est le cas du personnage d'Albert Dupontel, qui pour le coup lui revient, n'est pas physiquement amoindri, mais qui a aussi tout perdu.
Lui, il perd sa fiancée qui ne l'attend pas. Ce qui arrive, évidemment, qui ne l'attend pas. Et donc, lui, il est non seulement déclassé dans sa relation amoureuse, mais aussi du point de vue de son travail. Parce que c'est le deuxième aspect, c'est de retrouver une place dans la vie sociale, donc par le travail. Et ça, c'est très difficile. Et puis, il y a tout ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que, bien sûr, les gueules cassées, c'est le parangon, bon, évidemment. Mais les blessures qu'on ne voit pas chez Albert, elles sont là.
C'est logique. Il est complètement traumatisé, ça. Il y a pas, à l'époque, j'imagine, il n'y avait pas de prise en compte de la psychologie.
Si, il y
a des cellules.
Oui, il y en a. Alors, des cellules, non, le terme est trop fort. Non, en revanche, les médecins et les psys s'interrogent beaucoup sur cette question. Freud parle dès 1915 de névrose de guerre. On a déjà eu des appellations, hein, pendant la guerre sur cette question des soldats traumatisés. Donc on n'est pas, les gens sont pas idiots. C'est pas parce que c'était il y a un peu longtemps qu'ils étaient plus bêtes. Donc, mais simplement, ils n'avaient pas forcément les outils. Et puis finalement, c'est très tardif, cette qualification de syndrome post-traumatique, c'est après la guerre du Vietnam, hein, aux États-Unis. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on relie un petit peu cette histoire de la Première Guerre mondiale avec les avancées à la fois scientifiques et historiques. Ça, c'est intéressant, parce que c'est un aspect qu'on n'avait pas du tout traité avant, cette question du retour.
Il y a reconstruire sa vie dans la société civile, et puis la vie intime aussi. Ça, c'est encore une autre problématique.
Voilà, alors ça, c'est la question que j'ai traitée dans ma thèse, qui était au départ pas facile, parce que mon idée, c'était d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand les hommes rentrent à la maison. Une fois qu'ils ouvrent la porte, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Et on m'avait dit, mais t'es complètement folle, ma pauvre fille, tu trouveras jamais rien, parce que de toute façon, les gens ne disent rien. Et on se rend compte que c'est pas vrai du tout.
Il y a des correspondances.
Alors, il y a des correspondances pendant la guerre. Après la guerre, un peu par définition, les correspondances s'arrêtent. Donc, cette écriture de soi, elle est un peu perdue pour l'historien. En revanche, ce qu'on a, c'est des journaux intimes, ce sont des mémoires de, alors, en dépit de la reconstruction qu'il peut y avoir de sa propre vie, hein, quand on écrit des mémoires, n'empêche que ça dit quand même des choses.
Ça interroge sur la virilité, la masculinité.
Oui, parce qu'il y a un certain nombre d'hommes qui rentrent et qui ne peuvent plus faire l'amour. Pour qui même l'acte sexuel est devenu impossible pour de multiples raisons. Il y a un psychologue, quand vous disiez tout à l'heure, finalement, on s'en préoccupe pas, la preuve que si, en 17, il y a un psychologue qui s'appelle Angelo Reinhardt, qui invente l'expression de mal détranché pour parler de l'impuissance. Donc on a des tas de médecins qui racontent, pour ça que les archives médicales, c'est l'autre domaine qui est très intéressant quand on travaille sur le retour, les archives médicales, elles travaillent sur des études de cas. Donc elles disent, j'ai reçu monsieur machin, il lui est arrivé ça, il me raconte ci, il me raconte ça. Et puis, les études de cas listent les symptômes. Et ce qui est évidemment passionnant, c'est que dans la liste des symptômes, on a au détour, comme ça, vite fait, l'impuissance. Sauf qu'on ne sait pas gérer ça. Sauf qu'on ne sait pas comment faire. Donc, très souvent, qu'est-ce qu'on a? On a des médecins qui disent, bon, c'est très embêtant, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger, laisser le temps faire.
Oui, une belle analyse, quoi.
Oui, mais en même temps, on peut difficilement leur en vouloir, parce qu'eux-mêmes étaient un petit peu démunis.
Ils ont dépourvu, oui, en plus.
Face à ça. Il faut, d'ailleurs, je pense qu'on doit l'être encore un peu aujourd'hui, mais bon, là, en l'occurrence, en 19 et toutes les années 20, on est démunis face à ça. Mais il y a une vraie préoccupation. Il y a une préoccupation de l'État, il y a une préoccupation des instances médicales. Mais une des difficultés de travailler sur le retour, c'est que forcément, les retours sont singuliers.
Et pour les familles, c'est aussi important. On vient de parler de la dimension intime, on parle de l'épouse. Mais dans le cas du personnage de Nils Arestrup, le père aussi, même si le retour se fait pas exactement comme prévu, mais ça aussi, c'est ça posait question à
ça,
l'époque.
Ça, c'est ce que Annette Becker et Audouin Ouzon ont appelé les cercles de deuil, quoi, parce que évidemment, la souffrance, elle est au centre avec certains personnages, puis elle s'étend dans la famille. Il y a eu relativement peu de travaux faits justement sur ce choc qu'a été pour des parents de perdre leur enfant à la guerre, cette espèce d'inversion comme ça, c'est pas normal. On perd pas son enfant à la guerre, c'est les papas qui vont défendre les enfants.
C'est un cycle naturel,
les enfants qui vont défendre les papas. On n'enterre pas les enfants et on les enterre pas à la guerre. Donc ça fait, mais il y a eu peu de travaux. Il y a juste Jay Winter qui a travaillé sur la guerre elle-même en montrant qu'il y a une surmortalité beaucoup plus importante dans des villes comme Paris, Londres, Berlin pendant la guerre des personnes âgées. Il analyse ça justement comme un choc terrible de voir les enfants. Même grand, mais nos enfants, ils restent toujours avec une culotte courte. Hein,
c'est vrai, c'est toujours des bébés.
Ils ont beau avoir 40 ans, ils sont quand même nos enfants, quoi.
Ouais.
Et donc le retour est parfois difficile, ouais.
Albert.
Il y a eu quand même de très très belles histoires d'amour. C'est-à-dire qu'il y a eu des femmes qui sont tombées amoureuses de soldats gravement mutilés. Et il y a de très très belles histoires. Et c'est pas simplement ça s'explique pas simplement par la compassion ou le patriotisme. Il y a de réelles histoires d'amour tout à fait touchantes.
Une dernière question, Dominique Fouchard, avant de vous laisser repartir. Dans le film, on voit qu'il y a une escroquerie au monument aux morts. Pierre Lemaître raconte qu'il a inventé cette version-là. En revanche, on voit une autre escroquerie, c'est celle des enterrements des soldats que les familles tentent de rapatrier ces corps-là pour les faire enterrer dans les cimetières militaires. Ça c'est une donnée historique.
Pour les faire enterrer dans les cimetières des villages.
Des villages, oui.
C'est-à-dire que c'est une donnée historique, oui, mais en fait, finalement, sur le nombre, il y a à peu près 250 000 corps qui se sont rapatriés. Hein, sur, en gros, 1,4 million morts au combat en France. Donc c'est pas si énorme que ça, d'autant plus qu'il y a des subventions de l'État encore pour faire rapatrier les corps. Mais on était dans une espèce de dualité, c'est-à-dire à la fois laisser le soldat, le poilu, avec ses compagnons d'armes, dans cette espèce d'unité du front, et en même temps vouloir un corps, parce que dans les cimetières communaux, en réalité, il n'y a pas de corps. Hein, les monuments aux morts, il n'y a pas de corps.
Ouais, c'est la tombe vide.
C'est juste, donc oui, bien sûr. Et même, bon, évidemment, c'est une invention de Pierre Lemaître, mais vous vous en rendez compte, le marché que c'est, il y a 40 000 monuments aux morts. Donc pour les marbriers, les pompes funèbres, etc., c'est un marché dingue, quoi.
Merci beaucoup, Dominique Fouchard. Je rappelle que vous êtes historienne et que vous avez publié aux éditions Presse Universitaire de Rennes Le poids de la guerre, les poilus et leurs familles après 1918. Merci d'avoir été avec nous pour parler d'Au revoir là-haut, le nouveau film d'Albert Dupontel avec Nils Arestrup qui est avec nous aujourd'hui. Nils, je me demandais, vous avez quelques scènes avec Albert Dupontel. Être face à un acteur, mais qui est aussi le réalisateur. Vous parliez tout à l'heure de son côté très rigoureux, très méticuleux. Est-ce que là, on aborde ces scènes un peu différemment des autres ?
Non, pas consciemment. Mais inconsciemment, comme on s'était un peu engueulé et pris le nez.
Ah !
Quand il a tourné sa première scène avec moi, il y avait un côté un peu spectateur chez moi, en disant « Vas-y maintenant ».
Montre-moi ce que tu sais faire.
Montre-moi comment tu fais. Et il l'a fait magnifiquement bien. Et puis on avait beaucoup de respect. Je pense on a toujours beaucoup de respect et d'amitié l'un envers l'autre. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu ce côté. Tu m'as tellement fait chier, tu m'as tellement gonflé que je vais pas t'aider du tout. Mais pas du tout dans cette scène, quoi. Je l'ai pas aidé, mais il en avait pas besoin.
Et vous, Nils Arestrup, vous avez réalisé un film. Pourquoi un seul ?
C'est pas moi qui décide. Hein. C'est que les sujets après qui m'avaient intéressé,
sur lesquels
j'avais écrit, ne correspondaient pas du tout à ce que les gens voulaient ou cherchaient. Donc,
c'est pas une question d'envie.
Trop compliqué. Non.
Vous avez réalisé Le candidat qui était un.
Oui, j'aurais bien aimé refaire.
Qui relatait, alors c'était assez politique, qui relatait l'histoire d'un candidat qui prépare une future confrontation télévisée avec son adversaire pour.
Le grand débat.
Ouais, l'entre-deux-tours de la présidentielle. Vous l'avez observé avec assiduité, cet entre-deux-tours, cette année ?
Oui, enfin, j'ai regardé tout ce qui concerne la politique m'a toujours passionné. Peut-être aussi parce que, en tant qu'acteur, je vois un peu différemment.
Ouais.
Je vois les bons acteurs et les mauvais acteurs, évidemment, forcément.
Le politique est un acteur.
Chez le politique, c'est incroyablement spectaculaire. Et ils sont très sensibles à cette notion-là. Et donc, il y a ceux font semblant d'être simples, il y a ceux qui font semblant d'être honnêtes. Enfin, il y a énormément de choses comme ça que je goûte avec grand appétit. Voilà, donc j'ai regardé aussi, bien entendu, les derniers débats. Ouais.
Qui vous semble être un bon acteur, au-delà de sa couleur politique et de ses convictions politiques, qui vous semble être au plus près du jeu d'acteur dans sa façon de se donner à voir aux Français?
Je dirais Mitterrand.
Ah, on n'est pas contemporain là.
C'est pas si lointain que ça.
Non,
quand même.
Mais
c'est,
j'entends. C'est, j'entends.
Mais que le cinéma pourrait utiliser.
Mitterrand maîtrisait parfaitement l'art de la présence et il habitait complètement ce qu'on appelle aujourd'hui, cette expression étrange d'ailleurs, habiter la fonction. Il savait vraiment faire le président. De Gaulle n'avait pas besoin de le faire puisqu'il y avait quelque chose d'historique, de naturel dans sa relation. Avec ça. Voilà, aujourd'hui. Mais je ne dirais rien.
Pourquoi vous ne voulez pas nous dire? Pourquoi vous ne voulez pas nous dire que ça reste
truc?
On parle de jeu de comédien, on ne parle pas de couleur politique.
Oui, de jeu de comédien.
Voilà, extérieurement comme ça, peu importe leurs convictions et les vôtres d'ailleurs, juste le jeu.
Je ne sais pas, je suis aussi forcément un peu âgé maintenant et un peu dans la nostalgie d'une époque, d'une période. J'ai l'impression qu'aujourd'hui tout ça c'est un peu simplifié, ouais. Et qu'on ne cherche plus forcément à incarner la présence d'une nation à l'intérieur de soi. Donc c'est beaucoup plus banalisé, beaucoup plus simple. Voilà, il y a des événements quand même, il y a des choses assez étonnantes. Moi j'étais très étonné, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, par le moment où Macron perd complètement le contrôle qui se met à hurler comme possédé par quelque chose. C'était très troublant en tout cas, très curieux. On attend toujours qu'il y ait un contrôle quand même sur les choses que l'on ressent quand on est en face d'un public. Et là, il est monté tellement haut dans la voix et dans le cri que j'étais, comme je pense beaucoup de gens, stupéfait, quoi. Mais voilà, ça ne l'a pas empêché de gagner. Hein.
C'était très drôle.
Oui, vous l'avez compris, en tout cas le message est clair. Mm-hmm. Neil Sastreux va sûrement mettre en scène Emmanuel Macron dans un remake de L'Exorciste. Lui aussi, il est possédé, il va intervenir et démonter l'info à 12h10, mais il est quand même déjà parmi nous. Alors il paraît, Tanguy Pastureau, oui. Vous allez nous parler de Justin Rosenstein.
Oui, qui est un développeur de la Silicon Valley. C'est lui qui a créé le bouton « J'aime » sur Facebook, permet à la foule des gens qui aiment mes chroniques de l'exprimer sur les réseaux sociaux. Et je contemple ça le soir en me sentant un peu moins seul. Or, Rosenstein a annoncé qu'il est entré en désintox numérique, ce qui consiste à ne plus utiliser Internet. C'est une révolution pour lui.
Une révolution, on verra tout ça à 12h10. La bande originale, c'est jusqu'à 12h30, les amis. On est avec Neil Sastreux jusqu'à 12h30. Évidemment, j'espère qu'il ne partira pas, qu'il continuera à nous parler des politiques qu'il compte mettre en scène. Mais il est venu nous voir pour Au revoir là-haut, le dernier film de Dupontel qui sort aujourd'hui. Retour de la bande originale avec Albert Algout.
Bonjour.
Alexandre Wheeler. La meilleure offre depuis longtemps. D'ici quelques minutes, Tanguy Pastureau. Et pour la troisième fois, je suis aux côtés de Leïla Tiador Mouladi.
Merci Daniel, salut à tous. Et aujourd'hui dans la bande originale, c'est Neil Sastreux qui est avec nous. Qui vient nous parler de cet excellent film qu'on a tous aimé autour de la table, Au revoir là-haut, le nouveau film d'Albert Dupontel. Pour resituer, pour ceux qui nous rejoignent, c'est l'histoire de deux poilus, un rescapé de la Grande Guerre qui essaie de se trouver une place dans la société civile, qui vont monter une forme d'escroquerie au monument aux morts. L'un d'entre eux est un comptable assez basique, ça c'est Albert Dupontel qui l'interprète. Et puis l'autre, et on doit saluer quand même Nahuel Pérez Biscayart, qui incarne Édouard Péricourt, votre fils dans le film, Neil Sastreux, qui est une gueule cassée, qui est un dessinateur de génie, qui va amener un petit peu de fantaisie à cet après-guerre. On est en pleine année folle. C'est un rôle aussi qui n'est pas évident à mener, le rôle de Nahuel Pérez Biscayart, Neil Sastreux. C'est un rôle muet. quasiment.
Pas muet, mais c'est une difficulté évidemment pour un acteur d'avoir un masque, de n'avoir que deux fentes dans lesquelles apparaissent deux yeux. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant en même temps parce que on se dit où est l'homme, mm-hmm. où est la personnalité. On dit souvent que c'est dans le regard et le regard il commence où, il s'arrête où. Il a vraiment plus que deux fentes comme ça avec son œil bleu au centre de ça, et il arrive avec ça à faire passer toutes les sensations, toutes les peurs, toutes les inquiétudes, toute l'humanité du monde. Mais je sais que pour un acteur, ça doit être une gageure extrême, quoi.
Vous avez une scène en commun, en tout cas une scène très très importante en commun qu'on va pas dévoiler, mais qui est quand même un peu l'apogée, j'ai envie de dire, de ce film sur la terrasse du Lutetia. Ça, c'est une scène, je crois, que vous n'avez pas répétée avec Albert Dupontel, contrairement aux autres scènes, ou très peu.
Pas du tout.
Pas du tout,
pas
même.
Du tout.
Alors,
et
il vous
c'est
a fait
Albert,
confiance.
D'ailleurs, qui disait non, celle-là, il faut la garder comme ça et on verra sur le terrain. C'est purement émotionnel, donc il fallait pas trop faire ça, il fallait pas trop user ça.
Ouais, garder de la spontanéité pour ça, et vous êtes parfait. Vous êtes vraiment parfait dans cette scène, c'est une scène qu'on peut pas oublier, et on vous invite tous à aller voir Au revoir là-haut, qui est en salle depuis aujourd'hui. Vraiment, je crois que c'est un film qui va faire événement en cette rentrée 2017. Je rappelle quand même le casting, parce que Albert Dupontel a su s'entourer intelligemment d'acteurs vraiment qui sont tous excellents. Pour le coup, il faut le dire, c'est Laurent Lafitte de la Comédie Française, Émilie Dequesne, Mélanie Thierry, Héloïse Balster qui incarne cette petite Louise, cette petite fille qui est elle aussi assez, assez étonnante, vraiment étonnante dans le lien qu'elle tisse avec Nahuel Pérez Biscayart qui incarne donc votre fils, Michel Villermoz aussi de la Comédie Française qui est d'un peu de tous les Albert Dupontel, il est là sur toutes ses aventures, Philippe Huchan, Kianko Jandy, qui assiste Laurent Lafitte, Gilles Gaston-Dreyfus aussi que vous...
Qui l'assiste au-delà de ce qu'il voudrait, vous découvrirez ça.
C'est vrai, et Gilles Gaston-Dreyfus que vous n'hésitez pas à maltraiter d'une certaine manière, Nils Arestrup, dans vos échanges du film, pardon.
Alors, comme la dernière scène du film Au revoir là-haut, il n'a pas répété. Lui, par contre, on ne lui fait pas confiance. C'est Tanguy Pastureau qui maltraite l'info.
Oui, c'était pas un bon lancement, ça.
On a parlé il y a deux secondes, vous allez nous parler de Justin Rosenstein.
Oui, Rosenstein, c'est un type de la Silicon Valley, la vallée des geeks qui font du brosouf que vénèrent Macron et sa clique. En 2009, c'est lui qui a créé le bouton like de Facebook, un pouce qui sert à dire qu'on aime un contenu, alors qu'avant le pouce servait à dire qu'on aime les camionneurs poilus en Marseille avec un chien quand on est en rade sur la 7 direction la côte. Alors tout le monde utilise le like, Nicolas Sarkozy quand est publié un extrait de la nouvelle balade à la gratte sèche de sa femme. Puis il lui dit « Tu as fait un instrumental, ma tige de bambou, bonne idée. » Ce à quoi elle répond « Mais non, sur celle-là, je chante. » Mais aussi François Bayrou quand il tombe sur une photo de lui. Ou Michel Houellebecq lorsque le shampoing Dop poste une photo d'un monsieur se lavant les cheveux. Il écrit alors en dessous « Je devrais essayer, lol. » Et chaque pouce, c'est une donnée sur nous qui est envoyée à Facebook. Moi, j'ai mis « J'aime » un jour sur une vidéo de Grumpy Cat. C'est un chat qui tire la tronche. Depuis, la plume propose d'écouter vos chroniques, Daniel Morin. On passe donc notre vie à appuyer sur des pouces. Avant Facebook, il n'y avait que les masseuses asiatiques qui faisaient ça. Elles appuyaient aussi sur des bras, des nuques, des cuisses. Et à Pattaya, pour 30 euros, le faisaient même sur des organes sexuels. Après vous avoir dit « J'arrive, je vais me laver les mains parce qu'avant vous, j'ai eu tout un quart d'allemand. »
Oh non.
Le souci, c'est que Rosenstein, créateur du like, s'est rendu compte qu'il était accro aux réseaux sociaux. Le jour où au zoo, il a poussé son fils dans le vivarium des boas pour faire une vidéo virale. En lui criant « Vas-y Kevin, j'ai vu ça à la télé cet été pendant nos vacances en France. Il y a aussi un nain qui tourne une clepsydre. » Le Guardian, le journal que lit Theresa May le matin en trempant son bacon dans son thé avant de vomir, affirme même qu'il est en désintox numérique, ce qui consiste à se passer le plus possible d'Internet. Au lieu d'aller sur Facebook, il suit ses amis dans la rue. Quand il les voit jeter un papier par terre, se met à hurler « Smiley colère !» Et il finit à l'HP avec le coiffeur de Trump et le chirurgien de sa femme. Alors Rosenstein, dit le Guardian, a supprimé
supprimer de son 06 l'appli Snapchat. C'est un réseau social pour les très jeunes. Hein, Alison, qui est encore fraîche, a un compte Snapchat. Et bien, son pseudo, c'est Mamie Wheeler.
Mais alors, pourquoi Justin Rosenstein est en détox numérique?
Eh bien, parce que selon des études, à cause des réseaux, notre capacité d'attention s'est effondrée. On est infoutu de se concentrer plus de 24 secondes. Donc aujourd'hui, les éjaculateurs précoces font de très bons maris. Je t'aime, moi aussi chérie, voilà, c'est fini, une clope. Non, un huitième de clope, sinon c'est trop long, au revoir. Moi-même, pour garder votre attention, Leïla, je cite votre nom dans ma chronique, Leïla.
Oui.
Sinon, je sais que vous allez prendre votre iPhone afin de voir, Leïla, si le MoMA à New York, Leïla, a posté une nouvelle photo de l'expo Louise Bourgeois. En fait, on ne communique plus que par like. Moi, j'ai signé à Inter en me disant, il y a des gens de gauche, l'humain, ça compte pour eux. On va se regarder dans le fond des yeux et découvrir notre sensibilité. Ça va être une chanson de Calogero, mais en vrai. Résultat, à la pause du journal de midi, chacun est sur son portable à mater des vidéos de chats qui se lèchent le fion.
Enfin.
Désolé, monsieur Arestrup, on ne fera pas l'amour tous ensemble. C'est fini, tout ça, dans les médias. C'est la génération d'avant. La preuve, quand quelqu'un crie tout sa poêle, il n'y a qu'Albert Algou qui se dessabre. Justin Rosenstein lui a même fait installer un code parental sur son téléphone pour ne plus pouvoir installer d'appli. Et depuis, il profite. Ce qui, vu qu'il bosse dans un bureau, consiste à regarder son ordi qu'il ne peut plus utiliser. Donc il va se défenestrer en pleurant, tel le fan de Schubert dont la Freebox serait resté bloqué sur la chaîne MTV Dance. Alors dans la Silicon Valley, des écoles sans portable, et c'est véridique, ont même été créées. C'est-à-dire que ces gens lancent des applis pour nous, dont eux se protègent, Leïla. C'est comme si Rocco Siffredi venait nous dire « Le sexe, en fait, les cocos, c'est nul. Faites plutôt du squash, ça défoule bien. » Et on est deux pareils. Hein, nos portables ont pris le contrôle de nos vies, Leïla. Ouais. Et si le mien n'était pas si cher, je le briserais en criant « Ça y est, je suis libre. Allez, Albert, moi aussi, je me désappe. J'ai pas connu l'époque de Louise Rego, mais raconte-moi comment c'était d'avoir des MST. Comment c'était de vivre, tout simplement, Leïla. »
Là, je suis là.
Bon,
il s'est pas dessapé, il a menti.
Ah bah écoute, je pense que t'insistes pas longtemps, il va le faire. Pardon, Nils Arestrup, pardon d'avoir été comme ça, interpellé par Tanguy Pastiro. Vous venez nous présenter Au revoir là-haut, je le rappelle, cet excellent film d'Albert Dupontel, adapté du roman de Pierre Lemaitre, qui a quand même eu le Goncourt pour ce roman, un roman picaresque. Pour revenir un peu à votre carrière cinéma, Nils Arestrup, j'ai eu la sensation qu'il y a eu des grandes rencontres dans votre vie, on l'a pas évoqué tout à l'heure, il y a la rencontre de Jacques Audiard. Vous dites de lui que Jacques Audiard vous a permis de montrer ce que vous ne vouliez pas montrer.
Jacques était sans doute pour moi la rencontre la plus importante de mon travail, notamment au cinéma. C'est lui aussi quelqu'un d'extrêmement exigeant, de très 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 dur, même très dur. Jacques exige beaucoup de vous, quoi. Alors, mais par contre, il vous laisse une grande liberté. Mais il ne se satisfait pas du tout venant du jeu, quoi. Donc, il vient vous voir après une prise et il dit, ça va, t'es au maximum, là?
Ah oui.
Ah oui.
Tu peux, ça y est, t'es au top, tu peux pas essayer de dépasser ce que tu sais faire.
C'est dans la sympathie, vos échanges.
Ouais, parce qu'on est très copains en même temps, très amis, donc ça.
Donc tout va bien.
C'est stimulant, voilà. Et c'est un très grand créateur aussi, c'est un très grand directeur d'acteur, même s'il aime pas cette expression.
Ça veut dire que tourner avec quelqu'un d'autre, un réalisateur, j'ai envie de dire, plus simple, un peu moins exigeant qu'un Audiard ou qu'un Dupontel, pour vous, c'est compliqué aujourd'hui?
Non, pas du tout. On n'a pas besoin d'être comme ça, d'être très exigeant ou très compliqué. Mais après, c'est une question de nature. Moi, j'aime ça. J'aime qu'on m'emmerde. J'aime qu'on me pousse. J'aime qu'on me demande quelque chose. J'aime pas qu'on se satisfasse non plus de, voilà, de ce que je peux imaginer ou croire que je sais faire. Donc c'est un grand plaisir, mais il y a eu des gens aussi très doux, très tendres, très gentils. On parlait un petit peu de Bertrand Tavernier, ouais. Qui est de cet ordre-là et qui en même temps vous stimule et vous donne envie de lui donner le maximum de ce que vous pouvez éventuellement donner.
Alison ?
Non, j'avais demandé, c'est difficile d'être dirigé par un ami, quelqu'un qu'on connaît très bien. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est compliqué de se parler ou... Est-ce que justement ça facilite le travail?
Ou ça risque de mettre en péril l'amitié aussi, à l'issue d'un projet?
Non. Avec Jacques, c'est très séparé, quoi. On est copains, on parle de tas de choses. Il m'a fait découvrir beaucoup de choses, notamment en musique. Et puis au moment où on travaille, c'est un autre rapport. C'est un rapport d'un metteur en scène avec un acteur. Donc il y a jamais de mélange de tout ça. Et on peut très bien s'engueuler autour d'une prise et puis rigoler cinq minutes après en allant manger un morceau.
Bah, c'est exactement ma relation avec Daniel Morin. Et bah, c'est à toi, Daniel. C'est parti.
Ah, dis donc. J'ai oublié. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle cinéma. Cinéma avec la sortie d'un grand film, un film pour lequel on reçoit un interprète prodigieux qui n'a rien à voir avec le film dont je vais vous parler. Aujourd'hui, c'est la sortie de Opération Casse-Noisette 2. Alors, contrairement à tout ce qu'on vous dit en promo quand il s'agit d'une suite, ah, mais on peut très bien aller voir le 2 sans avoir vu le 1. Eh bien, pour Opération Casse-Noisette 2, c'est pas le cas. Si vous n'avez pas vu le premier, même si c'est un dessin animé, je vous le dis franco, non. Vous serez totalement perdu. L'histoire est plutôt complexe, hein. Je vous fais rapido un petit résumé du 1. Sorli est un écureuil malin et ingénieux. À peine débarqué en ville, il repère un magasin de noix avec un stock suffisant pour nourrir tous les animaux de la forêt pendant l'hiver. Mais pour pénétrer cette forteresse, il va avoir besoin d'aide. Assisté de ses amis, il va mettre au point un plan rocambolesque pour organiser le vol du siècle. Une intrigue de ouf, oui, qui vous tient en haleine pendant 1h22. Dans Opération Casse-Noisette 2, tout est différent. Le pitch. Nos rongeurs sont à la recherche d'un nouveau lieu de vie. Ils repèrent un magnifique parc qui serait idéal pour tout ce problème. Le maire de la ville, un très vilain, souhaite transformer cet espace vert en parc d'attractions. Heureusement, ils vont pouvoir compter sur de nouveaux amis, des milliers de souris blanches, expertes en kung-fu. Je crois qu'avec l'arrivée des arts martiaux dans l'opus numéro 2, on ne peut pas parler de suite évidente. Néanmoins, tout ça, ça sent le carton. Surexcité à l'idée d'aller voir ce film remarquable, je me suis allongé pour calmer mes nerfs à vif. Le problème, c'est que quand je m'allonge, je dors. Et quand je dors, je rêve.
Ah oui, oui.
Bien sûr, j'ai rêvé du film, mais j'ai rêvé du film de façon un peu particulière, puisque j'ai rêvé que c'était un film France Inter. Ce qui change très légèrement la donne.
France Inter et la chaîne Animaux présente Opération Casse-Noisette 2. Un film coup de poing, un film puissant, un film chaud devant. Dans une mégalopole américaine, ville symbole de la toute-puissance financière, synonyme d'asservissement des masses laborieuses, deux écureuils migrants tentent de survivre malgré l'adversité. Pauvres mais malins, ils remarquent une zone encore verte malgré la main destructrice de l'homme. Une zone qui est pour eux un lieu d'espoir et d'abondance, niveau noisette. Quand on est un écureuil poissard... On est poissard. La zone qui scintillait comme une future corne d'abondance est menacée. On va en faire un parc d'attractions. Si le projet voit le jour, fini noisettes délicieuses et autres glands succulents. Le drame semble inéluctable. Et pourtant, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. L'arrivée de centaines de souris expertes en kung-fu. La violence aveugle des rongeurs amis arrivera-t-elle à mettre à mal la volonté mercantile et odieuse d'un système où le bien-être financier de quelques-uns passe avant le bonheur vital du plus grand nombre? Vous le saurez en allant voir Opération Casse-Noisette 2. À mon réveil, j'étais encore plus excité. Et oui, je ne rate jamais une occasion d'aller voir un film d'auteur quand il donne un sens à la vie des hommes et aussi à celle des écureuils.
Merci Daniel. Merci Daniel Morin.
France Inter. La bande originale.
Quel genre de cinéphile êtes-vous? Est-ce que vous allez souvent au cinéma? C'est quoi votre pratique à vous en la matière?
Non, franchement, je vais très peu au cinéma. Beaucoup moins qu'avant. J'en ai mangé beaucoup de la pellicule quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune homme. Je regarde des documentaires, je regarde des choses comme ça. Je suis moins intéressé aujourd'hui par le cinéma, mais c'est idiot, hein. C'est pas du tout intelligent, mais c'est comme ça.
On va vous laisser le temps de la réflexion, hein, Daniel.
Nils Arstrup n'aime pas les gens, et pourtant il va rester avec nous jusqu'à 12h30 sur France Inter. Dans la bande originale, il vient nous voir pour Au revoir là-haut, le dernier film d'Albert Dupontel qui sort aujourd'hui sur les écrans. Serge Gainsbourg, L'Anamour.
Aucun Boeing sur mon transit, aucun bateau sous mon transat. Je cherche en vain la porte exacte, je cherche en vain le Mouixit. Je chante pour les transistors ce récit de l'étrange histoire de tes anamours transitoires, de belles au bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 ans. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives ont pâli. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer.
Gainsbourg, l'amour sur France Inter dans la bande originale. Nous sommes toujours avec Nils Armstrong pour Au revoir là-haut, le dernier film d'Albert Dupontel qui sort aujourd'hui, Léa.
Oui, et Nils Armstrong, je me demandais, c'est quoi la suite, les projets à venir? On vous a vu dans Baron Noir, cette série qui a fait événement. Est-ce qu'on va avoir une suite?
Non, il y a une suite de Baron Noir, mais je n'y suis pas, parce que vous avez peut-être observé que mon personnage a été viré.
Oh, et il revient donc, pas par la fenêtre.
Ah bah non, c'est un président qui a été destitué, donc il s'en va et on m'a proposé de participer un tout petit peu à la deuxième tranche en étant une fois à l'hôpital et mort quoi. Donc
ah c'est pas mal.
Non.
Ouais, non, ouais. Ça me déprimait.
Et dans les projets alors, qu'est-ce que en cinéma, en théâtre? Quand est-ce qu'on vous revoit?
Je ne sais pas, parce que, vous savez, c'est toujours pareil, les projets de cinéma, il y en a.
Ouais.
On propose des choses, mais c'est assez difficile à mener jusqu'au bout quand ce ne sont pas des aventures profondément et totalement commerciales. C'est assez compliqué, assez long. Donc j'ai des amis qui se battent depuis 2 ans ou 3 ans pour essayer de monter des films. C'est pas du tout garanti que ça aboutisse. Je vais faire une petite participation dans le prochain film de Julian Schnabel, mm-hmm. qui avait fait Le scaphandre et le papillon, mm-hmm. et qui fait un film sur Van Gogh. Voilà, moi j'ai une très très petite chose. Ensuite je vais aller en tournée avec la pièce Acting.
Oui, de Xavier Duringer.
Ouais. Et puis voilà, après je sais pas. On verra.
Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Comment vous occupez?
Mais ça te regarde pas.
Bah si, je sais pas. C'est la question.
Mais
que
jamais j'aurais osé poser la question.
Moi, je la pose. C'est vrai.
Jamais.
Qu'est-ce que
la
vous
trouille.
Faites? Qu'est-ce que vous faites quand vous ne tournez pas?
Rien. Rien. Je ne fais rien. Je vous disais un petit peu hors micro que je jouais beaucoup aux jeux vidéo parce que ça me lave la tête. Ça exige une telle concentration instantanée qu'on peut pas trop ruminer.
Vous jouez à quoi?
Je joue beaucoup au football, à FIFA, ouais. Ah. J'ai pas le droit de dire, c'est une marque, hein, mais voilà, je joue beaucoup à ça. Je joue au Sims aussi.
Bien sûr, c'est génial.
Les petits personnages qu'on crée qui ont des vies, des histoires.
Qui font des enfants.
Mais Nils, quand vous jouez à FIFA, alors je sais pas si c'est possible, hein, vous jouez en ligne ou pas?
Non.
On peut pas?
Non.
J'imagine quelqu'un à l'autre bout en train de jouer en disant « Putain, mais c'est qui la bête qui est là en face de moi ?»
C'est Aristru 75.
Vous choisissez quelle équipe quand vous jouez?
J'étais un petit peu Marseille. J'ai beaucoup de copains marseillais, donc voilà. Et puis, mais je peux passer d'une équipe à l'autre. Voilà, c'est des challenges. Vous pouvez aussi créer un footballeur et puis mener toute sa carrière. Donc voilà, ça m'occupe assez souvent.
Ah ouais, c'est fou, je n'aurais pas imaginé.
Mais oui, je sais.
Moi, je vous, mais je vous voyais vrai. Plus, je vous voyais plus faire de la GRS, des choses comme
le
ça,
petit
la gymnastique rythmique, ouais. Le cerceau, non. Le ruban, les massues, voilà, non?
Non. Je joue beaucoup aux jeux vidéo et puis voilà, j'ai la chance d'avoir une épouse, deux petits enfants qui sont arrivés très tard dans ma vie. Et dont je m'occupe beaucoup. Enfin, ça, c'est le.
C'est la vie.
Voilà, c'est. Oui, c'est ma vie.
Pardon, on vous a embêté en vous posant toutes ces questions. Il est l'heure de s'excuser. Si, il va s'excuser quand même, c'est Daniel Morin.
Ben oui, je vais m'excuser pour tout le monde. Désolé. Alors, déjà, pour Mélenchon, pour Hollande, pour Sarkozy, qui ont appris ce matin de la bouche de Nils Armstrong qu'ils ne seraient pas et jamais de bons acteurs. Eh ouais, vous manquez juste de charisme, les gars. Désolé pour Franck Dubosc. Il l'a appris dans l'émission. Il ne sera pas dans le prochain camping. Eh ouais, Francky, c'est Nils qui s'y colle. Désolé pour le mec d'Alison Wheeler, qui, on l'aura compris, se prépare à une vie particulièrement glauque. Courage, l'ami, et désolé enfin pour tous les animaux dans tous les zoos qui ont eu un jour Nils face à eux en train de la regarder. Pas de panique, les gars, c'était pas une menace, ils cherchaient juste l'inspiration.
Merci Nils Arestrup d'avoir été avec nous. Au revoir là-haut, en salle depuis aujourd'hui, Albert Dupontel, allez-y, on a adoré. Merci les copains et
merci,
on se retrouve demain.
Bravo Daniel et Leïla.
Merci Daniel Morin.
On avec se Christophe Michalak.
Eh ben oui, le grand pâtissier.
Miam. C'est terminé les amis, c'est l'heure de carnet de campagne avec Philippe Bertrand. À demain.
À demain, merci Daniel, merci Leïla.